Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Père, nous voulons te remercier pour ta parole ce soir encore. Merci pour ton peuple qui veut ta parole et qui a soif de ta parole. Nous voulons être un peuple de ta parole, Seigneur. Parce que là, où tu as parlé, quand nous parlons ces choses, alors Seigneur, ton royaume se manifeste. Ta gloire peut se manifester. Et c'est là où nous te donnons la domination dans les circonstances. C'est là où l'ennemi ne peut pas prédominer. Nous te disons merci, Père. Dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise Amen.
Amen.
Alléluia. Bienvenue donc à cet enseignement encore sur la parole de Dieu. Et ce soir, nous allons continuer cette série, cette longue série que nous avions commencé déjà depuis longtemps sur la foi.
Et
je vous le dis après, je vais faire une très, 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 très longue série sur l'Apocalypse qui va durer je ne sais combien d'années.
On verra
l'Apocalypse du premier verset au dernier verset. Ça prendra beaucoup de temps, mais vous serez bénis. Par contre, il faudra venir très régulièrement
et
d'amener vos amis s'ils veulent découvrir l'Apocalypse. Nous en sommes sur la foi et notre texte de référence c'est Hébreux 11:6 qui dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. » Nous avons ici quelque chose qui nous montre que ce qui plaît à Dieu, c'est notre foi.
Ce n'est
pas tes gémissements, ce n'est pas tes plaintes.
Ce n'est
pas tes seigneurs, tu vois, en décortiquant toute ta situation de A jusqu'à Z. Mais ce qui plaît à Dieu, c'est ta foi. Pourquoi ? Parce qu'avec ta foi, le royaume de Dieu va se manifester dans tes circonstances. Donc Dieu va dominer dans tes circonstances. Et là où Dieu domine, eh bien, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. Le péché ne peut pas dominer. La maladie ne peut pas dominer. Le manque ne peut pas dominer. Tout ce qui va à l'encontre de ta vie ne peut pas dominer. Parce que quand tu marches dans la foi, tu marches dans la manifestation visible de Dieu. C'est ce qui va l'amener. C'est pour ça que Dieu dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. » Et la foi est un immense sujet. On pourrait y passer encore des dizaines, voire des centaines d'heures. La foi va donner la domination de Dieu dans ta vie. C'est là où tu lui laisses, où tu lui crées un espace où il peut se manifester. Et c'est là où des versets comme « Rien n'est impossible à Dieu » prennent toute leur signification. Mais le problème, c'est que les gens disent « Ah, Dieu est tout-puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. » Mais ils ne comprennent pas que le récipient de cette puissance, ça va être eux. C'est pour ça que Dieu nous dit ici, la foi, c'est notre responsabilité. On a vu que la foi commence là où Dieu a parlé. Il a parlé dans sa parole et prenez les promesses de votre alliance, la nouvelle alliance. Mais aussi, il te parle personnellement. C'est ta destinée, ce sont des promesses spécifiques pour ta vie. Là, tu peux accrocher ta foi quelque part. Donc, ce qui impressionne Dieu, c'est ta foi, pas autre chose. Si tu veux glorifier Dieu, marche dans la foi. La foi, c'est un élément central, je dirais, c'est une doctrine centrale de la parole de Dieu. Nous sommes sauvés par la foi, nous l'avons vu. Nous voyons les choses de Dieu comme Dieu les voit par la foi. Mais Dieu a besoin de nous. Il a besoin que nous apprenions à fonctionner dans la foi, marcher dans la foi. Alors, je ne vais pas vous refaire tout un rappel là-dessus. Nous allons revoir 1 Timothée 6:12 qui nous montre clairement qu'il faut combattre un bon combat. Et c'est le bon combat de la foi. Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Il ne dit pas combat les démons. Il ne dit pas combat le diable. Il ne dit pas combat les hommes. Il dit combat le bon combat de la foi. Nous avons vu qu'il y a un mauvais combat que beaucoup de chrétiens combattent. Quand tu te trompes de combat, eh bien, tu te fatigues pour rien et rien ne se produit dans ta vie. Et tu perds à tous les coups. Et c'est là où souvent l'ennemi essaie de nous focaliser. Là, on va perdre notre temps. Là où on va essayer de briller des trucs qui ne sont pas scripturaires et de se bagarrer contre des choses qui ne sont pas notre combat. Tu es dans une position d'autorité. Quand tu es dans une position d'autorité, tu donnes des ordres. Tu n'es pas en train de discuter ou de négocier. Les gens qui négocient ou qui discutent avec le diable ont tort. On ne discute pas avec le diable. On lui donne des ordres au nom de Jésus et il doit obtempérer. C'est la même chose pour tes circonstances. Tu dois apprendre à dominer. Tu domines par ta bouche et la foi qui est dans ton cœur. Si tu ne sais pas ces principes-là, tu échoueras tout le temps. Tu les connaisses. Parce que je te rappelle que le royaume de Dieu, Dieu fonctionne avec des principes, c'est-à-dire des lois spirituelles. Et avec des valeurs de caractère. C'est très très simple. Le royaume de Dieu est quelque chose d'extrêmement simple. Mais d'une immense puissance. Quand nous comprenons comment ça fonctionne. Un des plus grands secrets que tu pourras découvrir dans la vie chrétienne, c'est d'apprendre à comprendre le royaume. Comment Dieu manifeste sa domination. Quand tu apprends à le faire, tu vas voir, les choses sont très simples après. Moi, personnellement, ça fait 30 ans que je suis sauvé. Et
je
n'ai jamais trouvé la vie chrétienne aussi simple. Alors que les pratiquement plus de 20 ans dans ma vie chrétienne, les choses étaient tellement compliquées que je ne m'en sortais pas. Mais après, j'ai compris, finalement, les choses étaient simples. Mais que je plaçais mes idées sur Dieu, mes façons de penser sur Dieu, je me concentrais, je mettais le focus là où en fait je pensais que c'était compliqué. Finalement, quand j'ai découvert que les choses sont beaucoup plus simples, avec les principes divins et les valeurs divines, alors beaucoup de choses ont commencé à se produire. Il y a eu une accélération de ma destinée. Des choses que Dieu m'avait dit 15 ans, 17 ans plus tôt, qui s'accomplissaient lentement les unes après les autres, ont commencé à s'accélérer de beaucoup plus. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à comprendre certaines choses. Donc Dieu nous dit ici, combat le bon combat de la foi. Donc il y a des ennemis de la foi.
Ces
ennemis de la foi, nous avons vu, c'est ne pas agir sur la parole. Vivre tout le temps dans son passé, ne jamais laisser son passé derrière soi. L'incrédulité, l'inquiétude. Ensuite, nous avons vu aussi le manque de compréhension de notre héritage en
Christ.
Que les choses nous appartiennent déjà, que nous avons simplement à les recevoir. Ensuite, nous avons vu le « quand dira-t-on ?» C'est-à-dire, tu veux commencer à marcher dans la foi et les autres commencent à parler sur toi. Et là, tu commences à te retirer. Mais Dieu dit que son juste vivra par la foi.
Et
s'il se retire, il ne prend point plaisir en lui.
Donc
tu dois apprendre à ne pas écouter ce que les autres disent quand tu es dans la foi.
Sauf
bien sûr si c'est des gens qui ont une certaine maturité dans la foi.
Mais
là je vous ai dit, faites attention à, vos, à votre entourage.
Si vous
voulez aller loin avec Dieu,
il va falloir
que vous ayez un entourage
qui
connaissent profondément Dieu. Pas qui parlent tout le temps des choses du monde.
Des petites
histoires à droite, à gauche.
Et
des choses négatives tout le temps. Si c'est ça, ou si tu passes ta vie avec ton petit téléphone portable, tu n'iras pas loin. Alors nous avons vu aussi le manque de se tenir sur notre confession. Et ça aussi on l'a vu très souvent. On voit que les gens ont tendance à parler la parole de Dieu au début, puis au moment ils se découragent parce qu'ils ne voient rien changer.
Donc
il va falloir que tu apprennes à te tenir ferme sur ta confession. Ensuite, une autre chose que nous avons remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que la foi est une école. Et qu'on doit passer des examens, entre guillemets. Ça prend du temps, mais tu dois grandir dans la foi.
Mais
tu ne passeras jamais d'une petite foi, parce que nous avons vu que la foi se mesure.
À
une très grande foi,
du jour au lendemain.
Ça ne marche pas comme ça. La foi est un muscle qui s'exerce. Dans les bons moments et dans les mauvais moments. Il est très facile de dire « Seigneur, merci parce que tu pourvois à mes besoins alors que tes poches sont pleines d'argent et ton compte en banque va très bien. » Et que finalement, tu n'as pas une grande vision de faire de grandes choses, donc tu vas vivre correctement. Par contre, c'est plus difficile de proclamer « Seigneur, tu pourvois à mes besoins » alors que tes poches sont vides. Ou alors que tu es dans une certaine dimension financière. Mais que, en fait, tu vois beaucoup plus haut et que tu n'as pas vraiment les finances devant tes yeux pour aller là où tu
vas aller.
Donc, il y a des dimensions dans la foi. Alors, nous avons aussi commencé à parler du manque de vision pour accomplir des choses. Alors, Proverbe 29:18. Proverbe 29:18 nous parle justement d'un manque de vision. Là, j'ai la traduction « quand il n'y a pas de révélation », mais la meilleure traduction, c'est « quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein ou le peuple meurt ». Beaucoup de chrétiens ne savent pas où ils vont. Ils se lèvent le matin et c'est une journée qui commence et ils se couchent le soir, c'est une journée qui termine.
Ah,
mais d'accord, mais où tu veux aller? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu converges vers ce que le Seigneur t'a montré? Dans la vie, tu dois t'ouvrir une destinée en cherchant la face de Dieu. Il va te parler et c'est là où il va mettre les limites de ta destinée. Et c'est là-dessus où tu dois voir. Ah, c'est ça, c'est vraiment extraordinaire. Et la foi, c'est vraiment extraordinaire. C'est de voir le futur. c'est que tu vois les choses à l'avance.
Ça, c'est
une capacité absolument fabuleuse. De voir les choses à l'avance. C'est comme ça que la foi fonctionne. Parce que si tu n'as pas de vision, tu n'iras nulle part. Tu vas passer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de ta vie et tu auras été nulle part. Pourquoi est-ce que tu veux gagner de l'argent, tiens? C'est bien de gagner de l'argent. Dieu nous veut prospère. Mais pourquoi?
Oh,
parce que je vais aller manger au restaurant avec ma famille tous les dimanches. Si c'est ta vision, tu dois avoir un truc ici, là, devant les yeux. Tu
ne
vois pas loin. Non. Qu'est-ce que tu vois devant toi? Parce que c'est ce qui va motiver ta foi. Si tu n'as pas d'objectif, tu ne peux pas fonctionner dans la foi. La foi se fixe des objectifs et les accomplit. Mais encore faut-il voir quelque chose. Sans vision, le peuple périt.
Il
n'y a rien de plus malheureux qu'un être humain qui se sent inutile. Nous avions vu dans différents passages, et nous allons continuer notre étude, dans 1 Roi 17 d'abord, nous avions vu cette femme, cette veuve, dont, à qui Dieu a parlé, et qui était dans la misère. Il va ordonner à une veuve de nourrir le prophète
Élie.
Donc une femme à qui Dieu parle. Vous savez, Dieu peut vous parler et vous pouvez être le plus misérable des êtres humains sur la terre. Si vous n'avez pas foi et si vous n'avez pas une vision qui est inspirée avec cette parole. Dieu avait dit à cette femme qu'elle allait nourrir, que Élie allait arriver et qu'elle allait nourrir le prophète Élie. Et
Élie
lui demande de la farine, de l'eau, etc. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit, bah voilà, je vais te faire ça. C'est tout ce qu'on a, et après on va mourir. Imaginez-vous, Dieu vous parle et vous dites, bah, je vais mourir. Ça, c'était quelqu'un qui n'était pas inspiré par la parole de Dieu. Elle aurait dû s'asseoir et dire, finalement, Dieu m'a donné une solution. Je vais nourrir un prophète. Oh, un homme de Dieu qui est loin. Je vais lui donner ce que j'ai. Ça veut dire que je mets toute ma destinée dans les mains d'un homme de Dieu. Selon la parole de Dieu. Obligatoirement, il va se passer quelque chose. Quand vous obéissez à Dieu, quand vous êtes au bout du bout de vos ressources, mais c'est là où Dieu va se montrer. Parce que vous avez besoin de Dieu là où vous ne pouvez pas aller. C'est pour ça que je suis fatigué avec ces chrétiens qui prient, Seigneur, fais que je puisse avoir le bus dans 5 minutes. Seigneur, fais que je puisse avoir du pain parce que qu'il en reste au moins un pour moi. Toutes les prières stupides
ne
sont pas des prières.
Ils
sont du baratin devant Dieu. Mais non, tu exerces la foi et tu as besoin de la prière au moment où toi, tu ne peux pas. Là où il y a la limite humaine, avec un cœur qui a la foi, c'est une avenue, une grande route qui devient ouverte pour que Dieu puisse intervenir dans ta vie. C'est comme ça que la foi fonctionne.
Tu n'as
pas besoin de foi. J'ai pas besoin de foi pour se soulever ce stylo. Seigneur, aide-moi à soulever ce stylo.
Mais
j'ai pas besoin de foi pour ça. Et il y a beaucoup de gens qui prient comme ça. Et qui disent qu'ils ont la foi, mais ils
n'ont
pas la foi. Cette femme, elle avait nourri un prophète.
Et
elle disait, nous mangerons, après quoi nous mourrons. Ça, ce sont les gens qui dans leur tête ne vont pas bien. Dans, au chapitre 19, donc toujours un roi. On va continuer cette histoire, on avait commencé la semaine dernière. Et c'est le prophète Élie qui remporte une victoire extraordinaire sur les prophètes de Baal. La puissance de Dieu se manifeste devant tout un peuple. Il met un sacrifice. Il laisse les prophètes de Baal invoquer leur Dieu, se faire des incisions, faire toute leur stupidité. Le prophète Élie est là, les bras croisés, et il rigole. Et il commence à invoquer le Seigneur. Et
d'un
coup, le feu de Dieu descend sur le sacrifice. Ah, le peuple d'Israël fait
ah!
Et là, il dit, ça y est, c'est vraiment le Dieu d'Élie, c'est l'Éternel. C'est lui que nous allons servir. Et d'un seul coup, il ramène tout un peuple. Et il fait tuer tous les prophètes de Baal. La puissance de Dieu s'est manifestée. Élie a été justifié dans sa parole, la parole qu'il a donnée. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Alors que Jézabel, la reine Jézabel, la femme du roi Akkad, qui avait amené toute cette idolâtrie en Israël, et en fait, elle vient et dit, ah, il paraît qu'Élie a tué les prophètes. En fait, moi je vais t'enlever la vie. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire ? D'un seul coup, Élie va fuir. On va encore parler du découragement ce soir. Le découragement est un terrible ennemi de la foi. C'est un mangeur de vision divine. C'est un moteur pour dire les plus grandes stupidités sur notre vie. Quand nous sommes découragés, c'est là où nous disons les choses les plus stupides de nos vies. Élie avait remporté une victoire extraordinaire. Élie, voyant cela, verset 3, s'en alla, entendant la nouvelle de Jézabel, que Jézabel voulait le tuer. Pour sauver sa vie, il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur.
Arahunga ngo akize amagara ajiberisheba kibuyuda ahasiga umuntu wiwe.
Je vais lire en français parce que le texte est un peu long. Pour lui, il alla dans le désert et après une journée de marche, il s'assit sous un genêt. Il demanda la mort en disant, c'est assez. Il demanda la mort.
Si
Élie voulait mourir, c'était simple. Il allait dire bonjour à la reine Jézabel et il était tranquille. C'était pas compliqué puisqu'elle voulait le tuer. Pourquoi est-ce qu'il va dire là je demande la mort? Il demande la mort à qui? À Dieu qui va venir avec un couteau et puis venir tuer Élie.
Vous
voyez, quand les gens sont découragés, ils n'ont plus aucune vision. Parce que finalement, la mort, ça veut dire quoi? Ah, je vais mourir, comme ça je serai tranquille. C'est être complètement désespéré que dire j'ai envie de mourir. C'est vraiment être désespéré quelque part. Ça veut dire que je suis un échec. Ça veut dire que je n'ai aucune vision. Ça veut dire que le grand Dieu devant lequel je criais des grands Alléluia, tu es puissant, tu es grand. Ça veut dire que ce Dieu-là est incapable de me sortir de ma situation. Ça veut dire plein de choses terribles. De dire, je veux la mort. Non, quelqu'un qui a la foi. Il dit, Seigneur, moi, je veux la vie.
Et
je veux voir ta vie se manifester.
Et
je veux une longue vie sur la terre pour écraser la puissance de l'ennemi jusqu'au bout, jusqu'à mon dernier souffle. Je veux que jusqu'à mon dernier battement de cœur, je dise que le nom de l'Éternel soit béni. Et voir la victoire de Dieu.
Ça, c'est
quelqu'un qui a une vision. Je veux accomplir toute ma destinée. Je ne veux pas me retrouver devant le Seigneur Jésus. Et puis que le Seigneur me dise, oh, voilà ce que j'avais pour toi. Et tu en as accompli
0,001%.
Nous sommes sauvés par la foi et par la grâce, soyons clairs. Mais par ta foi, tu vas accomplir des choses extra. Maintenant, il faut que tu aies une vision. Et le découragement va bouffer ta vision. Regardez ce qu'il va dire. En disant, c'est assez éternel maintenant, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Je
ne
sais pas d'ailleurs qui disait, qui est-ce qu'il visait au travers de ses
pères.
Parce que si vous étudiez l'histoire d'Israël, finalement vous allez découvrir une chose, c'est qu'il y a eu des grands prophètes avant
Élie.
Mais quand Élie est venu, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'était pas le top au niveau spirituel dans le peuple d'Israël. Donc je ne vois pas, il parle d'un héritage avant lui, mais cet héritage avant lui était mauvais. Le peuple d'Israël est en train de s'endormir complètement et d'aller dans l'idolâtrie. On fait des déclarations bêtes et stupides quand on est comme ça découragé.
Et
de toute façon, Dieu ne fera jamais rien avec moi.
Ah,
combien de fois j'ai pu faire cette déclaration stupide. En étant découragé. On dit des choses parfois. Parce qu'on est faible dans nos têtes. Et je vous garantis, si vous voulez marcher dans la foi, il va falloir que vous marchiez avec une mentalité du ciel. Une mentalité forte. Et quand vous voyez les choses qui tournent mal ou qui essayent de venir sur vous, les pensées de découragement qui vous assaillent, là, Élie va se retrouver dans un tourbillon de découragement. Certainement des esprits sataniques étaient en train de l'attaquer dans ses pensées. C'est pour ça que si tu veux marcher avec Dieu, tu dois être fort dans tes pensées. Tu dois être fort. Il y a quelqu'un qui a dit la chose suivante. Nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes. Par contre, nous pouvons les empêcher de faire un nid sur notre tête. Ça veut dire que les mauvaises pensées vont essayer de venir. Les pensées de découragement vont essayer de venir. Par contre, c'est ton rôle d'apprendre chaque jour, jour après jour, de fortifier ta pensée, d'accorder ta mentalité avec celle de Dieu. Parce que quand les pensées de découragement vont venir t'assaillir, toi, dans ta mentalité, ça sera conforme à ce qu'il y a dans ton cœur. C'est-à-dire que tu auras une vision d'aller au bout. Et que rien ne pourra t'en détourner. Ici, Élie a failli passer à côté de sa bénédiction. Il était tellement fatigué qu'il va s'endormir. Et Dieu va se manifester. Vous savez, même dans les pires moments de découragement, ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur lui ne change pas, il est là. Et nous, dans la Nouvelle Alliance, il est toujours là, à l'intérieur de toi. Donc tu peux te déplacer où tu veux. Dieu sera toujours là. Parce qu'il est en toi. 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et ce, pour l'éternité.
Donc,
Dieu est toujours là. Et Dieu va se manifester. Il y a un ange qui va le toucher. Il le réveille. La Bible nous dit qu'il mangea et but. Et il est dit, regardez bien verset 8, il se leva, mangea et but avec la force que lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Aliment surnaturel. Vous savez où se trouvait cette montagne ? La montagne de Dieu à Horeb était à environ 800 km au sud.
Umusozi Horeb agasongero kaho kari ku birometero 800 omanuka amajepfo.
Quand on se sent mal, on a envie de fuir le plus loin possible.
Yo umvumerewe nabi umva wohunga ukaja kure habaho.
Il pouvait pas aller plus loin parce qu'après c'était la mer.
Ntiyashobora kurengana ngaho kuko
nyuma. En tout cas vers le sud.
Nyuma yaho hari.
C'est une pointe. Moïse a rencontré Dieu sur la montagne d'Horeb. Mais quand vous regardez une carte, c'est au bout d'une pointe là.
À presque 800
km de Jérusalem.
Ce n'était
pas en bus ni en voiture avec des routes ou en moto.
C'était
à pied. Je
ne
sais pas où il voulait aller.
20
km par jour à pied. Dans le désert. Imaginez ce qui se passait dans sa tête. Oh, je
ne
suis pas meilleur que mes pères. Vivement que je m'écroule, que je meurs. Vous savez, souvent on devient des machines quand ça ne va pas. Le découragement arrive.
Il
mange ta vision. Et tu es sans frein, tu ne sais pas où tu vas. Exactement ce que nous avons vu avec Proverbe. Quand tu n'as pas de vision, tu n'as pas de foi, c'est un ennemi terrible. Au verset 9, il est dit là-bas, il entra dans la grotte, dans la grotte et il passa la nuit. Et voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Je vais vous dire une chose. Quand vous êtes découragé et que vous avez une mauvaise attitude, Dieu attendra que tu te calmes pour pouvoir te parler. Amen. Tant que tu ne te calmeras pas, tant que tu seras là en train de te plaindre, Dieu ne te parlera pas. Tant que tu ne changeras pas d'attitude. Là, Élie a été jusqu'au bout de ses forces. Et là, il était prêt à répandre son cœur. C'est pour ça que Dieu a commencé à lui parler. Parce que là, il allait écouter. 800 km plus tôt.
Et
c'est dommage parce qu'il a usé ses chaussures pour rien. Et souvent, quand nous sommes comme ça, découragés, nous usons nos chaussures, entre guillemets, pour rien. C'est-à-dire que nous nous agitons pour rien. Il va falloir que tu apprennes à maîtriser le découragement. À régulièrement alimenter la vision divine que tu as. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Moi, j'alimente ma vision tous les jours. Tous les jours, j'alimente ma vision. Je rêve à cette belle église remplie d'âmes sauvées. Rempli du Saint-Esprit, rempli de travaux finis. Je rêve beaucoup. Dans d'autres domaines de mon ministère, je rêve régulièrement. C'est ce qui donne de l'énergie. Avoir une vision, avoir des objectifs. Et quand j'accomplirai ça, je sais que Dieu, avant, commencera à me donner autre chose de plus grand. Comme ça, je pourrai continuer à rêver et à accomplir par la foi. Ces visions sont importantes, frères et sœurs. Sans vision, le peuple meurt. Le peuple s'enfreint. Le peuple ne va nulle part. Et c'est normal. Tu as besoin d'objectifs. Là, Élie n'avait aucun objectif. Au lieu de dire, Seigneur, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Seigneur, tu vois, Jézabel veut me tuer. Qu'est-ce que je dois faire? Il aurait dû poser la question au Seigneur puisqu'il était prophète. Mais là, d'un seul coup, tout est venu sur lui. Et il a vécu un moment terrible dans sa tête. Le découragement l'a amené à faire des choses. Vous savez, c'est pas parce que vous vivez un jour un grand miracle que d'un seul coup, vous allez passer de la hauteur 0,01 cm de croissance spirituelle à
10 000 km
de haut. Un miracle ne vous stabilisera pas dans la foi. Si vous en voulez une belle preuve dans l'Écriture, c'est très simple. Le peuple d'Israël a vécu des miracles pendant des années.
Et
ils étaient charnels et sans foi. Un miracle ne fera pas grandir ta foi.
Non,
ça va te donner un super témoignage à donner. Mais si tu n'apprends pas à marcher dans la foi, ton témoignage va devenir très poussiéreux au bout de 10, 15 ou
20
ans. Et quand tu seras très vieux, tu diras, oui, en 1924, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Dans les premières églises où on était en France, c'était comme ça. Les gens avaient vécu le réveil de Pentecôte de 1940. On était dans les années 80 et on nous racontait des témoignages de
1940.
Très intéressant, mais on aurait aimé entendre des témoignages tout frais. Parce que les gens ne vivaient plus rien dans ces époques-là. En tout cas, là où on était, c'était comme ça. Sans vision, le peuple meurt. Et alors, Élie va se plaindre devant Dieu.
Il
va dire, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, verset 10. Car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à me prendre la vie.
Bagahomva ngura ibicaniro byawe kandi bicishije inkota bavugishwa nawe ni cewe cenyene sigaye nanje nyene barangenza ngo banyice.
Et alors Dieu lui dit, tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et il va y avoir de grands phénomènes qui vont se produire. Un grand vent qui arrive. Un tremblement de terre. Le feu. Et la Bible dit à chaque fois, mais l'Éternel n'était pas dans le grand vent. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et puis d'un seul coup, Dieu veut lui parler avec une petite voix. Et là, Élie va commencer à se remettre en question. Il va se remettre en question. Et Dieu va lui dire encore une fois de plus à la fin du verset 13, que fais-tu ici, Élie? Et verset 14, il va répéter la même chose. Je suis resté moi seul à la fin du verset et il cherche à prendre ma vie. Et vous savez ce que Dieu va faire? Dieu va lui dire, entre autres, tu vas oindre un prophète à ta place.
Élie
a écourté son ministère par le découragement. Vous pouvez écourter votre destinée si vous n'avez pas une mentalité solidement ancrée sur Dieu. Si à chaque fois vous vivez des choses avec Dieu, ça se passe très mal au niveau de votre caractère, Dieu utilisera quelqu'un d'autre. Il n'y a rien de plus vrai dans le ministère.
Mais
c'est vrai aussi d'une manière générale. Pour ceux qui vivent avec le Seigneur. On a le même problème avec les Israélites dans Nombre. Quand dans Nombre, Dieu va envoyer les 12 espions qui vont explorer le pays. On va lire Nombre 13, versets 1 à 3. L'Éternel parle à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Vous enverrez un homme de chaque tribu de leur père. Chacun d'eux sera un prince, donc un leader, quelqu'un qui est élevé en position. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient des chefs des Israélites. » Donc Dieu va faire envoyer 12 personnes qui sont théoriquement des sages, des gens qui normalement avaient une certaine maturité.
Et ces
gens, on va pas trop insister sur cette histoire-là, mais en fait, les 12 espions vont être envoyés pour explorer le pays. Et ils reviennent après 40 jours. Et il y a 10 espions qui font un rapport catastrophique. Il dit, c'est vrai, c'est beau tout ça. Mais il y a des géants. On va se faire bouffer comme des sauterelles. C'est vrai tout ça, mais on n'y arrivera jamais. Ils n'avaient aucune vision, ces gens-là. Si tu n'as pas de vision dans ta vie, tu ne peux pas motiver ta foi. Cette vision, cherche-la dans la parole. Et cherche-la auprès du Seigneur. C'est là où il va venir sur toi.
Et
te dire, voilà ce que je veux faire avec toi. Et là, ça va te donner une vision. Des orientations pour ta vie. Vers quoi tu dois tout faire converger dans ta vie. C'est ce qui va te permettre de rester fixé sur les choses de Dieu. Si tu ne te fais pas manger ta vision. Il y a beaucoup de choses qui peuvent manger des visions. Il y a des mangeurs de visions. Le diable est un mangeur de visions. De destinée. Combien de fois, et il y a beaucoup de témoignages comme ça. Des gens qui à peine sont nés et sont morts nés. Et Dieu les a ressuscités. Je connais plusieurs serviteurs de Dieu, grands serviteurs de Dieu. Le diable voulait déjà attenter à leur vie. Le diable voulait attenter à la vie de Moïse. À celle de Jésus, bien sûr. Parce que le diable est un voleur de destinée. C'est pour ça que tu dois lui faire échec. Le diable va tout faire quand il voit que tu as une vision, tu marches dans ta vision pour te freiner dans ta destinée, pour te montrer que tu n'y arriveras jamais. Il va même te faire des grandes équations différentielles avec des intégrales s'il le faut, des grandes formules mathématiques pour te prouver que de toute façon tu n'y arriveras jamais. Il va tout faire pour essayer de t'arrêter, de te bloquer dans ta vie spirituelle. Il va te mettre des pressions sur toi pour que par exemple tu ne te maries pas avec la bonne personne. Et paf, d'un seul coup, ta vision tombe par terre. T'avais une grande vision. Et d'un seul coup, dans ta vie, il y a toutes choses qui se sont mises autour de toi. Et tu t'es retrouvé dans une spirale. Et quelques années plus tard, tu te réveilles. Et tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, ta destinée a sérieusement été entamée. Il va essayer de te faire rétrograder. Mettre des pressions sur toi pour que tu retournes dans le péché. Il va essayer des fois d'envoyer des maladies. Des moments très difficiles financiers. Des gens qui vont te monter contre toi. Devenir tes ennemis. Parce que tu as peut-être fait juste une petite erreur dont il s'est servi et qu'il va remplir amplifié et qui va allumer un grand feu dans ta vie. Il y a des mangeurs de vision. Il y a parfois des gens que tu estimes qui vont essayer de manger ta vision, qui vont tellement te décourager pour te dire non, ça, c'est pas pour toi ces choses-là, tu ne pourras jamais faire ça, tu sais, ces choses-là vraiment c'est très difficile, et ils vont te décourager sur tout le chemin. Tu
veux
dire, n'arrivera jamais alors que tu commences à marcher dans la foi. Ne soyez pas ces tueurs de vision, des gens qui tuent les visions des autres, mais au contraire soyez inspirants. Quand vous ne comprenez pas ce que quelqu'un a reçu de la part du Seigneur, ne dites rien de spécial, dites simplement bon, moi je ne peux pas comprendre, c'est toi qui as reçu ces choses, mais ne dites jamais de toute façon celui-ci ne va jamais réussir. Méfie-toi. Parce que parfois, tu peux rencontrer des gens que tu retrouveras 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard. Et tu ne les reconnaîtras plus tellement Dieu les aura utilisés. Donc,
il faut
être très prudent avec ça. Très prudent. Il y en a beaucoup, c'est vrai, qui vont raconter des choses et qui ne vont jamais rien accomplir dans leur vie. Mais ne sois pas de ceux un jour de qui on rendra témoignage. Ah, tel frère, vous voyez, qui était là, c'est vrai. Le jour où je lui ai dit ça, il m'a rigolé au nez. Et tu vois la personne qui est très haute maintenant dans le Seigneur. Et en fait, tu n'as pas cru à ce qu'il te disait.
Vous
savez, j'ai appris une chose. Il y a des fois, il faut savoir se taire. Même si on ne pense pas que quelque chose peut se réaliser, il faut être prudent parce que sinon on se retrouve nous-mêmes dans la confusion. Mais ne soyez jamais de ces gens qui tuent les visions des autres. Au contraire, réalisez grand et inspirez les autres. Si vous avez réussi à faire telle chose, d'autres peuvent faire mieux encore que vous. Et investissez dans les autres. Mais si vous n'êtes pas quelqu'un de vision, vous n'inspirerez personne. On dira, mais finalement, il me parle de choses, mais il n'a rien fait dans sa vie. Vous savez, c'est un peu comme ça, je fais une petite parenthèse là-dessus, parce que parfois je souris. Vous savez que les choses sur le leadership deviennent populaires maintenant. Et c'est très bien, il y a de très bonnes choses sur le leadership, de très bons enseignements sur le leadership, qu'on n'avait pas il y a des années. Mais parfois je souris parce que quand je voyage ou même quand je suis ici, il y a des gens qui font des cours de leadership et quand on regarde leur vie, on
se dit
mais finalement qu'est-ce qu'il a réellement accompli pour parler du leadership. Tu ne peux pas parler du leadership et enseigner les autres au niveau du leadership si toi-même tu n'as jamais rien accompli dans ta vie.
Tu es
en train d'enseigner du vent,
il
faut faire comme ceci, il faut faire comme cela. Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Non, vous voyez, si tu veux, si tu n'es pas quelqu'un de vision, tais-toi. Apprends à devenir quelqu'un de vision et va inspirer les autres après. Parce que dans la vie, nous avons besoin de rencontrer des gens qui nous inspirent. Des gens qui nous aident à dire finalement lui aussi est passé par là. Surtout dans les moments difficiles. Vous savez, quand quelqu'un réussit une grande vision, les gens ont tendance à dire ah, bah lui, il a été béni, hein. Oui, il a certainement été béni. Mais tu ne sais pas par quel désert il est passé. Tu ne sais pas par quoi il est passé. Et souvent, les gens pensent que ça s'est passé du jour au lendemain. Tu n'accompliras jamais une grande vision dans la foi du jour au lendemain. tu vas passer par un dépouillement total de toi-même. Tu te retrouveras, excusez-moi l'expression, mais tout nu. Et face à face avec toi-même. Parce que tu seras testé dans tous les domaines de ta vie. Si tu veux accomplir grand, tout sera secoué dans ta vie. Tout sera mis à l'épreuve dans ta vie. Tu seras secoué dans tous les sens. Vous savez, comme un arbre qu'on secoue et puis les fruits tombent de partout. C'est comme ça que ça fonctionne. Ces gens ici, ils n'avaient aucune vision. Leur problème, c'est que parce qu'ils n'avaient pas de vision, ils n'ont pas pu entrer dans ces promesses divines. Regardez ce qu'ils voyaient devant eux. Alors que Dieu leur avait tout donné. Au chapitre 14, il dit « Toute la communauté éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant cette nuit-là. Tous les Israélites murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit « Que ne sommes-nous pas morts ?» dans le pays d'Égypte. Et que ne sommes-nous pas morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il entrer dans ce pays pour tomber par l'épée? Nos femmes et nos enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Regardez bien la grande vision qu'ils avaient, verset 4. Ils se dirent l'un à l'autre, donnons-nous un chef, génial, et retournons en Égypte. Fantastique. Ça, c'était leur vision.
Iryo joro abantu barara bararira Abisirayeli bose budodombera Mose na Aroni ikoranero ryose rirababarira ritesiyo tuba twaraguye mu gihugu cya Egiputa canke tukagwa muri ubu bugaragwa mbega uhora hatujanira iki muri ico gihugu kwicigwayo n'inkota abagore bacu n'ibibondo byacu bakazoba abanyagano none kiza suko twosubira muri Egiputa
c'était leur vision
niko kwerekwa bari bafise
Dieu avait tout à portée de la main pour eux. Mais ces gens-là n'avaient aucune vision. Ils auraient dû se réjouir en disant, oh, c'est vrai, on a souffert dans ce désert. On en a marre. Mais là, on est aux portes de notre bénédiction. Ah, oh, ça va être super. Quand on va amener les enfants dans une belle rivière bien propre. Quand on va semer selon ce que Dieu nous a dit, dans le pays où coule le lait et le miel, tout va pousser, ça va être fantastique. Celui qui a une vision, il se réjouit prophétiquement. Il est tout le temps en train de se dire, ah, le résultat est là, il est là, il est là. Celui qui manque de vision se lamente prophétiquement. Il est toujours en train de voir le pire. Il
n'y
a rien devant lui. Éventuellement, il y a quelque chose derrière. Il se dit, après tout, c'était mieux quand j'étais dans le monde. Vous savez qu'il y a des gens qui rétrogradent parce qu'ils ont le goût, l'arrière-goût du monde encore. Finalement, quand j'étais païen, j'étais plus heureux. Le samedi soir, on allait se saouler là. On avait l'impression d'être un peu dans un autre monde pour quelque temps. Mon pauvre ami, sauf que tu courais en enfer. Et vous savez, il y a des gens qui rétrogradent parce qu'ils n'ont pas de vision devant eux. Les pressions sont là. Et ils font comme les Israélites. Demi-tour. Mais c'est une catastrophe. C'est horrible de voir quelqu'un qui a marché avec Dieu revenir, comme dit la Bible, dans le vomi. À manger son vomi. Déjà,
ce
n'est pas agréable de vomir, mais alors, en plus, manger son vomi, c'est encore pire. Et les gens qui rétrogradent souvent sont les gens qui sont découragés parce qu'ils n'ont pas de
vision.
C'est un terrible ennemi de la foi.
Nous
mon un chef et retournons en Égypte.
Il
y en a un autre qui était très découragé et qui a fait des déclarations stupides, c'était Job. Job chapitre 3. Job, c'est vraiment un livre qui est tellement mal compris par les gens. Les gens pensent que le livre de Job, c'est Dieu qui envoie les malheurs. Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Dieu est l'auteur du mal, tout ce qui m'arrive de mauvais, c'est lui qui l'a voulu dans ma vie. Je le subis, je souffre, mais comme je suis un bon chrétien, je dois quand même dire Amen, Alléluia. Et Job Job, c'est le type avant vraiment sa révélation avec Dieu. C'est le type du chrétien qui se pense super spirituel et qui n'a rien compris au film. C'est une bonne expression française, ça. Vous savez, c'est les enfants, ils regardent les films. Et puis ils posent des questions tellement évidentes que vous n'avez plus envie de leur répondre après. Parce qu'ils n'ont rien compris à l'histoire. Et c'est souvent le cas avec les chrétiens. Ils sont là, des fois ils font des déclarations vraiment très fortes.
Et
Job, quand il a eu tous ses malheurs, il a déclaré quelque chose qui paraissait tellement super, ultra spirituel. Il s'était passé vraiment une catastrophe, des tragédies dans la vie de Job. Il avait eu sa famille de décimée. C'est bien, tout c'est bien.
Donc
tout ce qu'il possédait, ses possessions,
excuse-moi.
Et ensuite, le diable s'est attaqué à sa santé.
Satan agira hantu aterana magara yiwe.
Alors, quand on regarde Job chapitre 1, après qu'il ait appris d'abord les mauvaises nouvelles sur sa famille, sur ses biens qui ont disparu, au verset 20, il dit alors Job se leva, déchira son manteau et rasa sa tête. Puis il se jette par terre. Il se prosterna et dit, nu je suis sorti du sein de ma mère et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni.
C'était
chapitre 1, verset 20 et 21.
Alors,
là, on voit le chrétien qui veut se tenir ferme. Il souffre, il serre les dents.
Ababaye.
Bien constipé. Et il dit, en fait, c'est Dieu qui est l'auteur de ça, mais certainement qu'il doit y avoir quelque chose derrière. Les voies de Dieu sont impénétrables. Ce qui t'arrive, mon frère, je pense qu'il y a quelque chose que Dieu veut t'enseigner. Et ça, c'est de la stupidité. Parce que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Et alors les gens souffrent. Et quelque part, il y a un arrière-goût amer de leur vie chrétienne ici. Je souffre et Dieu est dans le coup apparemment. C'est la pleine volonté de Dieu que je galère, que je souffre. Que je sois dans la misère, que je sois malade à mourir. Que j'ai que des problèmes, ça doit être sa volonté. Alors Job au début, voilà, c'était le style du chrétien d'aujourd'hui. Sauf que quand le diable a attaqué sa santé, là sa femme lui a dit, allez, maudit Dieu et meurs. Quelle chance d'avoir une femme qui vous dit ça. Terrible. Sauf que là, Job, il ne va plus dire la même chose après. Verset 10, au chapitre 2, il dit, il lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevrions de Dieu le bien et le mal, et nous recevrions de Dieu le bien, mais aussi nous ne recevrions pas aussi le mal. Sauf que il y a quelque chose qui va bouffer Job. Ça s'appelle le temps. Parce que quand tu souffres jour après jour après jour après jour, dans ta tête, il se passe des petites choses. Et là, l'abattement va venir. Le grand Job super spirituel. Dieu a donné, Dieu a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je suis entré nu dans ce monde, je repartirai nu dans ce monde. Super déclaration. Et il continue, nous recevons le bien de Dieu, et pourquoi est-ce qu'il ne nous enverrait pas aussi le mal ? Sauf qu'au chapitre 3, monsieur super spirituel, rasé, impeccable et bien parfumé, va changer de discours. Là, il va commencer à déverser tout ce qu'il avait à l'intérieur. Chapitre 3, verset 1, s'il vous plaît. Et là, oh, Job, il commence. Et après cela, Job ouvrit la bouche, et quoi ? Maudit le jour de sa naissance. Verset 2. Il prit la parole et dit, brrr. Verset 3. Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui, et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie et qu'elles disparaissent, etc. Et il va continuer, il va continuer. Et ça va l'engager à ouvrir des portes. Les trois amis vont se pointer. Les grands philosophes qui connaissent tout sur Dieu, qui parlent de Dieu, qui racontent tellement de belles choses entre guillemets sur Dieu qu'ils pensent avoir raison. Et vous allez dans des discours et des discours interminables de la philosophie sur Dieu. Et ils vont commencer à raconter plein de choses sur Dieu. En fait, c'est un peu ce que vous trouvez dans le monde aujourd'hui. De la philosophie. Et Job va s'enfoncer et s'enfoncer et s'enfoncer. Il ne trouvera pas de réponse ici. Dieu va devoir lui donner une révélation parce que Job, au bout d'un moment, il va tomber complètement. Mais il n'avait plus de vision ici.
Et
il raconte n'importe quoi. Maudit soit le jour de ma naissance, alors que quelques jours avant, il disait, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Et Job va prendre de sérieuses leçons. Dans le psaume 42, il nous est parlé aussi de l'abattement. Ne laissez jamais l'abattement être un ennemi de votre foi. Dans le psaume 42, alors verset 6, parfois c'est verset 5 dans certaines versions, c'est David qui dit, non, excusez-moi, c'est Corée, excusez-moi, c'est le poème des fils de Corée, il dit au verset 6, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Pourquoi t'as battu mon âme ? Ne laisse jamais ton âme, ta personnalité,
Ntukareke umushaha wawe.
Être rempli de choses négatives.
Ngo wuzure ibintu bibi.
Si tu fais ça,
ubikoze gutyo,
je te garantis.
Ndakubwiza ukuri.
Alors que tu as commencé à marcher dans la foi.
Watanguye kugendera mu kwizera.
Tu vas attirer des oppressions spirituelles dans ta vie. Tu vas rentrer dans une spirale de découragement qui va te freiner complètement. Et rappelez-vous que nous fonctionnons avec des influences. Soit des influences divines, soit des influences du monde, soit des influences de l'ennemi. À partir du moment où tu laisses Dieu t'influencer et que tu as la foi dans ton cœur, quelles que soient les circonstances, les difficultés que tu vas rencontrer, quand l'abattement, le découragement va venir, tu vas dire non, c'est pas ça qui doit prédominer. C'est ma foi. C'est le résultat que je parle et c'est pourquoi je crois. C'est comme ça que tu dois fonctionner. Maintenant, quand le monde t'influence, le monde va te mettre plein de bâtons dans les roues. Et très souvent, tu vas prendre des décisions quand tu es influencé par le monde qui vont t'amener à t'arrêter de marcher dans la foi. Et quand c'est l'ennemi, des oppressions spirituelles qui quasiment commencent à parler dans ta tête partout, tu te sens environné d'un nuage noir, tu es complètement découragé, tu ne vois pas d'issue, eh bien là, tu vas directement prendre des décisions mauvaise. Quand l'ennemi ou le monde arrive à te faire prendre des décisions, ce sont toujours des décisions contraires à la parole de Dieu, contraires à ce que Dieu t'a dit, contraires à la vision que le Seigneur t'a donnée. Et à ce moment-là, quand tu agis sur ces pensées-là, tu es sûr d'une chose,
que
tu vas échouer. Tu vas échouer. Dieu te donnera souvent une deuxième chance dans ces cas-là. Mais tu vas perdre des années. Tu vas te retrouver des fois à perdre des choses. Ou avoir pris des décisions que tu vas regretter amèrement pendant des années. Parce que tu iras dans des directions où tu ne voudras pas aller, mais tu seras obligé à cause des engagements que tu as pris. Et souvent, nous avons à faire face à ce genre de choses. Ne prends jamais une décision et ne va jamais dans une direction quand tu es découragé. Mais apprends à renouveler tes pensées avec la parole. À refuser que ces pensées négatives viennent et te dominent. Et qu'elles fassent des pressions sur toi. Pour que tu agisses ou que tu dises des choses qui vont aller contraire à ta foi. Contraire à ce que tu as construit pendant des années. Quand tu dis j'en ai marre, je vais arrêter, tu es perdant. Tu fais partie des perdants. Tu dois dire au contraire, non. Ce n'est pas ça qui me fera arrêter. Ce n'est ni les hommes, ni le monde, ni le diable qui me fera arrêter. Si je dois arrêter, c'est le Seigneur qui doit me le dire. Vous savez, parfois, moi je vois des chrétiens se laisser décourager alors que même la plupart des païens pourraient vaincre ces obstacles-là. Les hommes dont l'histoire parle dans ce monde, ce sont des gens qui ont donné leur vie pour des causes qui ont été immensément plus courageux que 99,9% des chrétiens
étaient
capables de relever des défis pour se tenir pour certains droits, pour faire des choses dans des nations que personne ne voulait faire, parce qu'ils avaient une vision.
abantu bagomba kubera barafise ukwerekwa.
Et pourtant ils étaient pas sauvés.
Ugasanga ntibakijijwe.
Il y a des choses dont on bénéficie aujourd'hui.
Hari ibintu twe tubamwe uyu munsi.
Vous regardez les ampoules pour nous, c'est quelque chose de tellement évident.
Uyu munsi amatara tubona yakangaha ni ibintu menga biroroshe cyane.
Mais il est parlé qu'Edison a essayé 1000 fois différents matériaux pour savoir si il y aurait quelque chose qui allait pas brûler quand il y aurait de l'électricité qui passerait.
Ariko baravuga ko itwa Edison yamaze imya yamatsike kirekire aragaragaza nk'incuri igihumbi byanka byanka.
Aujourd'hui on va acheter une ampoule dans la moindre petite boutique du coin.
Uyu munsi umuntu yigira mu kabati gajya akagura.
Ça nous paraît naturel.
Umenga ni ibintu bisanzwe cyane.
Mais il y a quelqu'un qui a essayé 1000 fois avant.
Ariko hari uwagaragaje incuri igihumbi mbere y'uko.
Parce qu'il en avait marre de voir des gens qui se bousillaient les yeux à la lumière de la bougie.
Kuko yari arambiwe no kubona abantu babigira barabibuji cyangwa bagakora kwibuji bakaruha amaso.
Et il s'est dit, il doit y avoir quelque chose qui doit éclairer sans se consumer quand on fait passer de l'électricité. Et cet homme ne s'est pas découragé. Il savait qu'il y avait une solution. Et il a trouvé la solution. Et aujourd'hui, on en bénéficie. Sauf qu'on ne pense pas à combien de fois cet homme a essayé. Combien de nuits blanches il a passé pour essayer de trouver ces matériaux. Et il a trouvé. Et on en bénéficie. Et les chrétiens, ils ont un petit obstacle. Oh Seigneur, pourquoi?
Ah,
mais réveillons-nous, frères et sœurs. Réveillons-nous. Si tu veux marcher dans la foi, il faut que tu refuses d'être découragé. On va terminer par un verset dans Hébreux 12. Hébreux 12, au verset 3. Ne te laisse jamais décourager et abattre. Prends ta destinée en main. Rien ne peut te résister si tu marches dans la foi.
Maintenant,
je te dis pas que ça sera facile. Je te dis pas que tu vas pas passer par des moments terriblement difficiles. Mais rien ne pourra arrêter la vision que Dieu t'a donnée. Si tu dis, je refuse d'être découragé. Il est dit, considérez en effet verset 3, celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas l'âme découragée. En effet, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché.
Nuko mushire imitima kuri uyo yihanganiye ibihari bihambaye bityo abanyabyaha bamuharirije ntimucobogore ntimudendebukirwe mu mitima yanyu ntimuragera kukuvishwa amaraso mugwanya icyaha.
Souvent on est découragé pour des choses mais insignifiantes.
Hari igihe ducika intege kubwa kantu utuntu.
Si tu veux marcher dans la foi, il faut que tu travailles ton caractère. Tu refuses quand quelqu'un dit non. Tu dis non, c'est pas un non, ça, définitif. C'est pas un non définitif. C'est-à-dire, non ne doit pas être une réponse que tu peux accepter. La foi n'accepte jamais non. Parce que la foi change les circonstances. Je
ne
te dis pas d'aller voir une personne et si la personne a dit non, tu dis tu vas changer au nom de Jésus. Non, ce n'est pas ça que je dis.
Ce
n'est pas ça que je dis.
Mais
je dis quand une circonstance dit non et que la parole de Dieu dit oui, tu vas apprendre à faire plier cette circonstance pour que la parole de Dieu prédomine dans ta vie. Et tu ne te décourages pas. Tu dis ça, c'est mon objectif. Personne ne m'enlèvera ça. Je le réaliserai. Quel qu'en soit le prix, quel que soit le temps que je passerai, peu importe, je verrai la rétribution de ma foi. Mais pour ça, il faut que tu aies une vision qui soit imprimée en toi. Méditez sur les visions. Passez du temps à rêver. Parce que demain doit être meilleur qu'aujourd'hui. Si tu vois demain pire qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu n'es pas sorti de l'auberge. Comme on
dit.
Tu dois comprendre que demain doit être meilleur.
heza gusumba uyu munsi.
Parce que la vision que Dieu t'a donnée.
Kuko kwereka Imana iguha.
C'est ce que tu verras s'accomplir devant
toi. Nikuzobona gushika imbere yawe.
Mais ne te laisse jamais.
Ariko ntureke.
Manger ta vision.
Ngo uribwe ukwizera kwerekwa kwawe.
Le découragement.
Kubwo gucika intege.
Parce que le découragement.
Kuko gucika intege.
Le manque de vision.
Kubura kwerekwa.
Est un terrible ennemi de la foi.
N'umwansa akomeye wo kwizera.
Que Dieu vous bénisse.
Imana ibaheza gihe.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.